Alors, Marie-France, Jean Chrétien publie Mon histoire.
Mes histoires. Mes histoires.
C'est mes histoires.
C'est mes histoires. Ouais.
Je l'ai pas vu, je l'ai pas lu son livre. J'ai écouté deux entrevues.
Oui.
Dont celle d'hier, à tout le monde en parle.
Ouais.
Ben, le petit Vlimeux, parce qu'il est pas très gros, c'est pour ça que je dis le petit Vlimeux, était presque adorable.
Exactement.
À la fin, l'homme qu'on a souvent détesté.
Tout à fait. Autant le titre est très habile parce que ça parle de son interprétation de l'histoire, sa lecture de l'histoire, des récits. C'est un conteur qui est toujours drôle, ratoureux. Autant il fut rusé, hargneux, cassant en politique même. C'est un homme d'une grande rouderie. C'est un conteur très sympathique et très ratoureux. Et il a été forcément très applaudi. Alors, sous prétexte de souvenir, personnel, si je me souviens, c'est donc que c'est vrai, il se livre à une espèce de réécriture de l'histoire, on pourrait presque dire de fake news. Il parle entre autres, et il en parlait hier, du français au Canada, que ce serait grâce à la couronne britannique et au Canada anglais que le français aurait été sauvé au Canada. C'est faux. D'abord, le français est en ce moment moribond au Canada hors Québec et ça tient, s'il existe encore, ça tient vraiment à la résilience des Canadiens français du Manitoba, du Nouveau-Brunswick. Ça tient vraiment à eux et à leurs organisations à eux. Et en ce qui concerne le français au Québec, c'est bien grâce aux Québécois et aux lois qu'ils se sont données, entre autres la loi 101, à laquelle Jean Chrétien s'est forcément et fortement opposé, bec et ongles, tout comme la société distincte. En ce qui concerne la nuit des longs couteaux, ça, pour rappeler à nos auditeurs les plus jeunes, 4 novembre 1981, au moment où l'acte constitutionnel est accepté par Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin, et par 9 des 10 provinces, et ça se passe une nuit à l'insu, au Château Laurier, à l'insu de René Lévesque. Et ça a eu pour effet des effets qu'on ressent jusqu'à maintenant, diminuer les pouvoirs du Québec en matière de langue et d'éducation, ne plus faire de nous un peuple fondateur, ça a encore des effets aujourd'hui. Et Jean Chrétien, à ce moment-là, est ministre de la Justice dans le cabinet Trudeau, et il dit que ça n'a pas existé. Il était couché au lit avec, non, avec Aline.
Non, il a dit, je suis rentré à la maison à 23h,
oui, voilà.
À 11h. Il dit, la preuve, Aline était là.
Ben oui, mais c'est pas une preuve, et ça a pu se passer pareil.
Oui, mais lui, il dit, j'ai pas vécu la nuit des longs couteaux, je dormais.
Il était ministre de la Justice dans un cabinet qui avait décidé que ça ne passerait pas. Ça s'appelle réécrire l'histoire sous prétexte que sa mémoire personnelle vaut la mémoire historique. Tout s'équivaut. Tu comprends? J'étais là ou j'étais pas là. Fait que ça fait foi de ça a existé ou ça a pas existé. On le sait, Paul, que l'histoire pure n'existe pas. Elle est toujours écrite par les vainqueurs ou par les temps qui courent, par des minorités vaincues. Mais il y a des interprétations, mais il y a des faits qui existent, qu'on peut interpréter, qu'on peut éclairer de différentes manières, mais les faits existent. Et le révisionnisme survient quand il y a un terreau particulier, c'est-à-dire quand l'histoire n'est plus valorisée dans une société, quand elle est peu ou mal enseignée, tu peux dire n'importe quoi. Et en cette ère de fake news, ça peut devenir l'histoire avec un grand H. Et ça arrive dans ce terreau-là, dans un terreau d'instantanéité et d'émotivité. C'est bien tendancieux ce qui s'est passé.
Un des moments, pour décrire ce que tu viens de dire, il a transféré la responsabilité sur Claude Charron. Il ne se souvenait même pas de son nom. Il dit, il y avait le petit ministre qui était là.
Le petit ministre frisé.
Et il a fallu que Denise Bombardier lui dise, vous parlez de M. Ouais. Charron. Et il dit, j'avais un maudit bon deal pour lui. Et Charron a dit, ben non, on est des séparatistes, des souverainistes, on n'en veut pas. Hey, moi là, c'est facile de dire ça. J'aimerais ça entendre la version de Claude Charron.
Ben exactement. Alors, Dieu merci, Denise Bombardier était là, Serge Fiori était là, Paul Arcan était là ce matin pour questionner, mais c'est un peu, et c'est surtout qui raconte sa version puis qui essaie de la faire passer pour vrai, c'est une chose, mais qu'on soit à ce point ignorant de notre histoire et que ça passe pour vérité, c'est là où c'est inquiétant et où ça me questionne vraiment. C'est notre récit collectif, c'est notre mémoire, c'est notre identité, c'est notre histoire, c'est bien particulier.
Oui, tout à fait. Et le Québec a été roulé deux fois dans la farine. Il y a eu deux nuits de longs couteaux. Il y a eu l'histoire du rapatriement de la Constitution.
Oui.
Et après ça, 9 ans plus tard, Meech.
Exactement.
Même chose.
Exactement.
Même maudit scénario.
Exactement.
Je ne sais pas si M. Chrétien était couché en 11 heures avec Aline.
Je ne sais pas, hein? En tout cas,
c'est
Aline,
ce qu'elle dit,
Aline a le dos large.
Ben, Aline l'avait protégée dans une invasion
oui,
de domicile.
Oui, avec sa sculpture
Esquimaude.
Esquimaude à l'époque, ça s'appelait Esquimaude. Oui.
À l'époque.
À l'époque.
Je vois que...
Oui, oui. Quand même.
Jim Watson, le maire d'Ottawa, est poursuivi pour avoir bloqué 3 citoyens.
Oui,
sur
exactement.
Twitter.
Et les citoyens disent que c'est une entorse à leur liberté d'expression. C'est Ariane Kroll dans la Presse Plus qui se pose la question ce matin. Est-ce qu'un élu a le droit de bloquer des abonnés sur Twitter? On se rappellera que Donald Trump a perdu cette cause aux États-Unis en avril, mais il va en appel. On se souviendra également que François Legault, notre premier ministre, a débloqué des abonnés avant de devenir premier ministre. Et cette poursuite contre Watson, c'est la première au Canada et elle concerne tous les politiciens au pays parce qu'elle s'appuie sur la Charte canadienne des droits et libertés. Les plaignants, donc, disent que M. Watson, le maire d'Ottawa, les a empêchés d'avoir accès à de l'information importante, d'exprimer leurs opinions sur des questions d'intérêt public et d'accéder, je souligne, à une plateforme de débat public. La défense de M. Watson, ben c'est un compte personnel et il a le droit de ne pas se faire attaquer et harceler par des individus sur une base régulière. D'ailleurs, je précise que ce n'est pas son compte de maire officiel. Okay. C'est vraiment son compte personnel, de la même manière que Donald Trump a son compte perso.
Potus.
Lui, Donald Trump, oui. Donald Trump,
the real...
et le compte oui. officiel Potus, effectivement, President ouais. of the United States. Et sur Twitter, il y a deux fonctions. Bloquer, donc le troll ne peut ni te lire, ni commenter. Et masquer, il peut continuer à te lire puis à t'envoyer plein d'affaires, mais toi, tu ne le vois pas. C'est l'équivalent de quelqu'un qui viendrait trier ton courrier. Ça pose plein de questions, Paul. D'abord, qu'est-ce qu'un compte privé? Si vous êtes un élu, c'est pas privé, mais ça appartient à tous. Donc, tu n'aurais pas le droit de bloquer. Par extension, si tu es connu, toi, Paul, par exemple, est-ce que tu aurais le droit de bloquer? Ça pose cette question-là. À qui appartient le compte? À vous ou à Twitter, corporation privée qui peut monnayer nos informations personnelles? Et puis, si tu as un compte personnel puis tu as un compte officiel, ça s'équivaut pour Twitter. Il y a pas de, tu n'as pas le droit de bloquer sur un et de pas bloquer sur l'autre.
Ben oui, tu peux avoir juste un compte personnel et avoir une immense responsabilité.
Absolument.
Comme Hillary Clinton.
Absolument. On fournit sur Twitter. Mais ben oui. Sur Twitter, on fournit le contenu, on fournit la matière. Alors, est-ce que tu as le droit de choisir à qui tu décides de parler? Le droit de se faire insulter, de se faire harceler, est-ce qu'il est constitutionnel? Dans la vraie vie, là, on fait des campagnes hallucinantes. Il y a une intolérance tout à fait souhaitable contre le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, contre l'intimidation. Ça commence dans les écoles, mais sur les réseaux sociaux, c'est totalement incohérent. Il faudrait subir ça au nom de la charte. Ça pose de maudites belles questions. Au nom de quoi, politiquement, M. Watson devrait-il se faire insulter sur Twitter? Ce qui ne se tolère pas en personne serait donc admissible sur les réseaux sociaux. Au nom de quoi? De la rectitude politique. C'est pour ça que François Legault a débloqué. Il avait peur de se faire reprocher ouais. de ne pas être politiquement correct. Aurais-tu dû céder? Je suis pas sûre. Et ça pose la question, quand je te disais que les plaignants protestent contre, ils sont privés d'une plateforme d'intérêt public. Ton compte, mon compte, le compte de Kevin 666, est-il d'intérêt public? Au nom de quoi? On n'est pas en soi un média d'information. Quand tu travailles pour ton employeur, oui, mais toi, personnellement, ta parole libre à toi est-elle une plateforme d'intérêt public
oui.
qui appartient à
oui.
tout le monde?
Oui.
Ça pose vraiment ces questions-là.
C'est tout à fait
et
pertinent.
Les anonymes, justement, oui. les Kevin 666, devraient-ils être tolérés? Est-ce qu'on ne devrait pas tous fonctionner sous notre vrai nom sur Twitter? Quand on est rendu à demander à ne pas être bloqué, ça pose un tas de questions
mais
fascinantes.
Une des questions, c'est la fréquence de retour de commentaires, par exemple, dérangeants,
oui.
en provenance du même compte à chaque fois.
Absolument,
c'est-à-dire
qu'à oui.
un moment donné, on dit quelque
la
chose.
La quérulence.
Oui, mais oui, la quérulence.
La quérulence.
Mais on peut dire des choses. Et puis le lendemain, d'ailleurs, nos auditeurs réagissent. Moi, je reçois beaucoup de courriers le lendemain. Souvent, je réplique, d'ailleurs, c'est-à-dire je retourne
ouais.
des commentaires ou je prends des points d'observation. Mais il y a une différence entre te faire critiquer...
C'est ça, il y a une manière de faire,
une
bien
fois
sûr.
Par un compte ouais. quelconque et de te faire cibler régulièrement
exactement.
Par un compte, parce que là, ça dépasse carrément le commentaire critique.
Tout à fait. Et comme personne, je le répète, dans la vie, est-ce que tu es obligé de subir ça Alors, si la réponse est non pour toi, parce que c'est toi qui fournis ton contenu, je pense que la même réponse prévaut sur les réseaux sociaux. Alors, ce droit constitutionnel de bloquer, j'ai très hâte de voir ce qu'il va devenir de cette poursuite-là contre Jim Watson, le maire d'Ottawa, mais vraiment, ça aura valeur de jurisprudence.
Mais j'ai hâte de voir ça aussi, parce que il y a la différence entre l'utilisation que tu fais de ton compte privé,
oui,
ta personne, l'intégrité de ta personne, et le compte, disons, Marie-France Bazot, personnalité publique. À partir du moment où tu émets des commentaires et que tu sollicites d'ailleurs l'interaction, ouais, avec les auditeurs, ça peut pas toujours être des bons commentaires. Et si ça t'irrite et que tu bloques, ben à ce moment-là, il me semble que dans la fonction publique de maire, tu dois laisser ça ouvert.
Oui et non. Oui et non. Si c'est vraiment des attaques personnelles, de l'intimidation, du
attaque
harcèlement.
Attaque à répétition,
selon moi. À répétition aussi. Mais il n'y a rien dans Twitter qui fait la différence entre ton compte officiel de job et ton compte personnel. C'est à toi de faire attention, de respecter un certain statut. Tu es maire, tu as une manière de, ouais, t'exprimer, puis tu ne tutoies pas, puis tu n'engueules pas le monde. Mais de la même manière, on s'attend à ce qu'on te parle correctement. Mais au-delà de ça, c'est toi comme personne qui engage un dialogue. Tu n'es pas obligé de le faire.
Non.
Vraiment,
mais,
c'est...
Mais Donald Trump aime ça, lui.
Mais lui, il aime ça.
Mais lui-même.
Il aime ça. Et il en a fait une marque.
Oui.
Mais sur POTUS, il ne dit pas les mêmes choses.
Et en plus, c'est lui qui pourrait se faire bloquer par d'autres.
Ben, complètement.
C'est ça, l'affaire.
Complètement.
Mais il cherche ça, tu,
ouais,
comprends? Même à titre de président des États-Unis.
Ouais, mais ça pose vraiment, vraiment, oui, la question de...
Oui,
puis c'est ça, à partir d'où calcules-tu la notoriété? Alors, ça vaut pour le maire d'Ottawa, mais est-ce que ça va valoir pour le maire d'une municipalité de 150 habitants?
C'est encore pire, parce que c'est encore plus à proximité. Imagine-toi un maire d'une municipalité de 150 habitants commence à bloquer,
oui,
un,
okay,
ou deux citoyens.
Non, je me suis peut-être mal exprimée. Comment mesures-tu la notoriété et ça marche à quoi? Ça pose vraiment, vraiment des questions
Mais j'ai hâte de voir comment ça va tourner, tout ça.
Mais c'est ça, la question aussi est, est-ce que M. Legault aurait dû
continuer
à bloquer ou pas? Qu'est-ce que nos élus font? Qu'est-ce que nos députés font? Est-ce qu'ils s'en sont tous passés le mot et on ne bloque plus personne parce que d'un point de vue rectitude politique ou d'un point de vue poursuite éventuelle, même s'il n'y a rien qui les oblige à répondre?
Bonne question.
Bloqué. Bien hâte de voir la
beau
suite
sujet de
cette
reportage.
Affaire-là. Oh que oui.
Non, mais c'est vrai, une journaliste, oui, un journaliste qui part et qui va demander ça à tous les policiers. Vous,
oui,
qu'est-ce,
oui,
que vous faites,
oui,
dans,
oui,
les circonstances?
Je serais curieuse de voir leur pratique.
On pourrait dresser une liste, les bloqueux et les non-bloqueux.
Oui.
Il y a déjà les bloquistes, mais ça, c'est une autre affaire.
C'est une autre affaire.
Au revoir.
À demain. France.